15h et vous avez reconnu le générique, c'est l'heure de l'émission des lecteurs sous les toits. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour. Bonjour, nous sommes aujourd'hui 5 autour de cette table. Alors j'ai à côté de moi Nelly, Chantal, Yanis, Nathanaël et moi-même Sylvie. Donc aujourd'hui notre émission de Lecteurs sous les toits va porter essentiellement sur l'œuvre de Patrick Modiano parce que nous avions choisi Modiano comme thème à notre dernier comité de lecture qui s'est déroulé mardi. Donc je vais vous présenter brièvement Patrick Modiano et après nous parlerons de son œuvre. Donc Patrick Modiano est né en 1945 à Boulogne-Billancourt et il mène une enfance très solitaire. Il était souvent confié à des amis qui vivaient eux-mêmes parfois dans la clandestinité. Le père juif trafiquait avec les Allemands pendant la guerre. Il faisait du marché noir, ce qui l'avait peut-être un peu protégé. D'ailleurs, il ne s'était pas fait recenser comme juif à la police et il avait décidé de ne pas porter l'étoile. La mère de Patrick Modiano était actrice. Elle menait une vie dissolue, elle était souvent absente et beaucoup plus préoccupée par sa carrière que par ses enfants. Donc notre Modiano passe son adolescence dans les pensions dont il fugue fréquemment. Et c'est grâce à Raymond Queneau, un ami de sa mère, qu'il publiera son premier roman, Place de l'étoile, en 1968, roman dont vous parlera Nathanaël tout à l'heure. Très marqué par cette solitude dans cette clandestinité, tous ses romans garderont cette empreinte de nostalgie, de rêverie. Tous ses livres, il le dit lui-même, racontent la même histoire, tournent autour des mêmes obsessions, la perte d'identité, l'absence, l'amnésie, les réminiscences, le problème identitaire. Modiano aime citer des noms de rue, des numéros de téléphone surannés, Auteuil 54-73, des noms d'hôtels et de cafés. Il aime aussi les annuaires et les bottins. Et ses romans se déroulent presque toujours à Paris, pendant l'occupation. Donc, il faut que vous sachiez, je pense que vous le savez, mais il faut vous le rappeler, Patrick Modiano a obtenu le prix Nobel de littérature en 2014. C'est également la raison pour laquelle nous avons choisi de parler de lui. On connaît les hésitations de Patrick Modiano sur les écrans quand il passe à la télévision. On connaît son débit un petit peu hésitant. Et le début de son discours qu'il a fait pour l'acceptation de ce prix Nobel va nous éclairer un petit peu sur le pourquoi de cette attitude pendant les interviews.
Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d'être parmi vous et combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée et j'en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice.
Mais un écrivain, ou tout au moins un romancier, a souvent des rapports difficiles avec la parole. Et si l'on se rappelle cette distinction scolaire entre l'écrit et l'oral, un romancier est plus doué pour l'écrit que pour l'oral. Il a l'habitude de se taire, et s'il veut se pénétrer d'une atmosphère, il doit se fondre dans la foule. Il écoute les conversations sans en avoir l'air, et s'il intervient dans celle-ci, c'est toujours pour poser quelques questions discrètes afin de mieux comprendre les femmes et les hommes qui l'entourent. Il a une parole hésitante à cause de son habitude de raturer ses écrits.
Bien sûr, après de multiples ratures, son style peut paraître limpide. Mais quand il prend la parole, il n'a plus la ressource de corriger ses hésitations. Et puis, j'appartiens à une génération où on ne sait pas parler les enfants, sauf en certaines occasions, assez rares, et s'ils en demandaient la permission. Mais on ne les écoutait pas, et bien souvent, on leur coupait la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d'élocution de certains d'entre nous, tantôt hésitante, tantôt trop rapide, comme s'ils craignaient à chaque instant d'être interrompus. D'où, sans doute, ce désir d'écrire qui m'a pris, comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance. Vous espérez que les adultes vous liront. Ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre. Et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur.
L'annonce de ce prix m'a paru irréelle. Et j'avais hâte de savoir pourquoi vous m'aviez choisi. Ce jour-là, je crois n'avoir jamais ressenti de manière aussi forte combien un romancier est aveugle vis-à-vis de ses propres livres et combien les lecteurs en savent plus long que lui sur ce qu'il écrit.
Un romancier ne peut jamais être son lecteur, sauf pour corriger dans son manuscrit des fautes de syntaxe, des répétitions ou supprimer un paragraphe de trop. Il n'a qu'une représentation confuse et partielle de ses livres, comme un peintre occupé à faire une fresque au plafond et qui, allongé sur un échafaudage, travaille dans les détails, de trop près, sans vision d'ensemble.
Présenté Place de l'Étoile.
Alors, Place de l'Étoile est le premier roman de Patrick Modiano, qui a eu deux prix, le prix Roger Nimier en 1968 et le prix Fénéon. Ce livre, dans toute son œuvre, est un espèce d'ovni, car il n'a rien à voir avec les autres et il raconte la vie sur un mode en partie un peu autobiographique d'un jeune homme, richissime jeune homme d'origine juive, mais d'une manière complètement hallucinée. C'est un roman qu'il faut lire au troisième degré parce que vous allez voir, souvent c'est il a des propos que l'on pourrait prendre pour antisémites. Or, comme l'a expliqué Sylvie, Patrick Modiano est d'ascendance juive, son papa est juif, a échappé de peu d'ailleurs une fois à une rafle. Et du coup, il faut le lire pas tout à fait, évidemment, au premier degré. La préface a été faite par Jean Co, qui était un ami de sa mère, cette actrice un petit peu qui avait délaissé son fils. Et il explique vraiment ce que ça pouvait être ce Patrick Modiano de ses 20 ans, avec toute sa recherche sur son identité. Je vous lis donc des petits extraits de la préface de Jean Co, journaliste. Avec ses 20 ans, sa juiverie sur le dos et son air très doux, avec ses lectures, ses souvenirs imaginaires, une inexplicable douleur au ventre et une boule d'angoisse indigérable dans la gorge, Patrick Modiano s'est avancé jusqu'au bord de la fosse et, les yeux fermés, il a sauté. Au fond, tout au fond, il s'est débattu et le voici qui remonte. stupéfait. Le voici qui rampe au bord du trou avec un livre entre les dents, qu'il faut à petites secousses, tant il serre les mâchoires, lui ôter de la gueule. Qu'est-ce que ça donne ? Pêle-mêle, une orgie de souvenirs, que l'auteur s'injecte sous la peau avec des seringues souillées d'horreur. Un carnaval d'influences littéraires, assimilées, violées, détruites, brisées de ricanements, tordues d'ironies inquiétantes de tendresse, parfois fascinées d'inquiétudes qui affleurent au ras du style et s'écroulent brusquement en provocation désespérée. Une fureur d'être, de ne pas être, une quête harassée d'identité qui tourne en rond, tourbillonne en vertige et s'effondre en une dernière fatigue. En vérité, je vous le dis, un sacré livre et une dure épreuve. Je vous le dis aussi, une sensibilité faite de tant de rires et de tant de douleurs qu'aucun dieu, fût-il d'Abraham, n'y reconnaîtra les siens. En vérité, la voix unique d'un écrivain de 20 ans qui ouvre d'une poussée des lourdes portes de la littérature et qui, hagard, se dresse sur le seuil en jetant un grand cri.
Vous voyez bien que ça allait être un grand écrivain.
Voilà. Alors, tout de suite, il nous explique le titre, qui va donner le ton un petit peu du livre. Alors, en incise, vous avez une histoire juive. Donc, le titre, c'est « La place de l'étoile ». Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit « Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'étoile ?» Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine. Donc, nous allons suivre ce jeune homme qui s'appelle Shlemilovitch. Je vais m'excuser. Raphaël Shlemilovitch, qui est donc un jeune homme extrêmement fortuné, d'ascendance juive, et qui va rencontrer, en fait, une foultitude d'antisémites et qui va lui-même vouloir être antisémite. C'est extrêmement difficile à comprendre parce que c'est quand même un récit un peu halluciné. Et je vais vous en lire juste un petit extrait. Donc, ce jeune homme prend la parole. Juin 1940, je quitte la petite bande de Je suis partout. En regrettant nos rendez-vous place d'enfer au Chereau, je me suis lassé du journalisme et caresse des ambitions politiques. J'ai pris la résolution d'être un juif collaborateur. Tandis que Mauroy et Daniel Alévi, toujours à la traîne, se contentent du pétiminisme, je me lance d'abord dans la collaboration mondaine. Je participe au thé de la propagande Staffel, au dîner de Jean Luchaire, au souper de la rue Lauriston, et cultive soigneusement l'amitié de Brinon. J'évite Céline et Dieu La Rochelle, trop enjuivée pour mon goût. Je deviens bientôt indispensable, je suis le seul juif, le bon juif de la collabo. Et ce jeune homme, nous allons le suivre donc dans son parcours halluciné. Il va faire des études à Bordeaux. Il va rencontrer là un espèce de souteneur aristocrate juif toujours qui va lui demander de lui rabattre certaines proies parce qu'il est un maquereau. Et donc il va demander à ce jeune homme de lui apporter certaines proies. Donc une jeune fille toute fraîche sortie de Savoie. Et en effet, il va lui donner la nièce d'un bon abbé qui s'était pourtant occupé de lui. Et après, il lui demande une autre proie, une aristocrate de Normandie. Mais avec cette aristocrate de Normandie, c'est pas la même chose qui va se passer parce que elle est très particulière elle-même et elle va lui tenir un discours, elle va lui raconter la vie de son père juste après la guerre. Mon père avait compris, donc c'est l'aristocrate normande qui parle, mon père avait compris que le sexe détermine souvent les options politiques. Après la libération, il tourna Kazakh et transforma le château en bordel pour femmes. Les intellectuels de gauche affluèrent, elles réclamaient du nègre, de l'arabe, du juif, du prolétaire. Simone et Marguerite étaient les plus enragées. Maintenant, parlons de vous. Shlemilovitch, ne perdons pas de temps. Vous êtes juif ? Bon, parfait. Je suppose que vous aimerez violer une reine de France. J'ai dans mon grenier toute une série de costumes. Veux-tu que je me déguise en Anne d'Autriche, mon ange ? Blanche de Castille ? Marie Leszczynska ? Ou bien préfères-tu troulacher Adélaïde de Savoie ? Embouchonner Marguerite de Provence ? Limer Catherine de Médicis ? Culotter Jeanne d'Albret ? Choisis Beaupage, je me travestirai de mille et mille façons. Ce soir, toutes les reines de France sont tes putes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc ce jeune homme va finir en Autriche, où pareil, lui-même va devenir souteneur. Mais c'est toujours émaillé de souvenirs. Enfin, c'est vraiment... Sylvie me disait qu'elle avait lu un article comme quoi le jeune Patrick Modiano avait usé de substances un peu illicites. Et je pense que oui, il y a quelque chose comme ça, en plus de sa recherche d'identité. Et cette espèce de cri, comme le disait Jean Co, qui pourrait sembler au premier degré antisémite, mais qui est en fait plutôt un trouble, eh bien... Voilà, ce livre va se terminer, le héros va se retrouver sur un divan en face de Freud, on peut le supposer comme tel, ce qui en dit beaucoup. Tout ce discours un peu antisémite, on peut aussi l'expliquer parce que le nom du narrateur, qui est Shlemilovitch, ressemble à un personnage classique de la culture yiddish qui s'appelle le Shlemiel, qui est un anti-héros, qui se moque de lui-même et des choses pour mieux survivre dans un univers menaçant. Donc on peut penser que ce personnage a, en fait, est le double de notre héros. C'est un roman qui n'a rien à voir, vous allez le comprendre lorsque nous vous présenterons les autres, avec tout ce qu'il a écrit par la suite. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, si d'autres personnes souhaitent le lire, il est à la bibliothèque et ça serait intéressant. Il a été tellement violent quand même, et s'en est rendu compte, que très très vite, il a gommé des paragraphes entiers. Donc à la bibliothèque, vous avez l'édition de 1968, mais aujourd'hui, les rééditions sont expurgées par l'auteur lui-même. Donc il y a beaucoup de choses un peu violentes, comme j'ai pu vous lire, et encore je ne vous ai pas tout lu, hein, qui n'apparaissent plus. Donc voilà, je vous ai présenté ceci. Moi-même, je suis en plein doute, en pleine interrogation face à ce roman.
Donc c'était La Place de l'Étoile de Patrick Modiano, paru chez Gallimard, comme tous les romans de Patrick Modiano. Va maintenant vous présenter quelques livres de Patrick Modiano qu'elle a lus.
D'abord, j'étais très, très surprise de ne pas connaître Patrick Modiano, mais c'est sans doute dû à mes nombreux voyages à l'étranger, donc je n'étais pas là quand il est devenu célèbre. Mais je me suis très vite lancée dans la lecture de ses livres et je compte continuer, surtout avec Dora Bruder, La Petite Bijou, Place de l'Étoile, que Nathanaël vient de nous présenter, qui était son premier livre. Alors, pour avoir des renseignements sur lui, bien sûr, je suis allée sur Internet, mais là, Sylvie nous a déjà présenté beaucoup. Alors, j'ai juste noté quelques articles que j'ai lus dans Google et qui m'ont beaucoup intéressée. Alors, ils disent, ces livres ont la particularité d'être peu épais. Et ça, j'ai pu le constater, puisqu'ils ont tous à peu près 150 pages. Et Modiano... Pas un auteur engagé, mais pas un historien, ce qui est exact aussi. D'un livre à un autre, j'ai l'impression de lire le même ouvrage, ce qui me paraissait aussi exact parce que, comme j'en ai lu 4, je n'étais souvent pas sûre dans quel livre ça s'était passé. Et bien sûr, il mentionne la dureté de ses parents et le manque d'amour dans son enfance. Et Et je pense que c'est grâce à cette enfance malheureuse qu'il est devenu un grand auteur. Un autre dit « J'aime ou je n'aime pas, une fois la lecture entamée, impossible de reposer ses romans. » Ce qui était le cas pour moi et pour d'autres lecteurs pendant notre comité de lecture. Et Modiano, c'est une atmosphère, une mélancolie. Alors ça, je trouve très important parce que j'ai tout le temps la même impression en lisant ses livres, surtout sur l'atmosphère et la mélancolie. Alors, j'ai réussi à en lire 4. Alors, je ne vais pas vous les résumer tous. Mais le premier, Dans le café de la jeunesse perdue, qui a été publié en 2007. Puis, Une jeunesse, de 1981. Ça se passe à l'anniversaire d'une jeune femme qui s'appelle Odile, et ils fêtent leurs 35 ans. Son mari, il fait le récit de leur rencontre à Paris quand ils étaient adolescents. Alors tous les deux étaient mineurs et toutes sortes de choses leur sont arrivées. Et je trouvais que c'était vraiment passionnant à lire. Le troisième, Dimanche d'août, qui date de 1986, qui est l'histoire d'un gros diamant. C'est presque un policier, mais tout de même pas. Et c'est également passionnant à lire. Alors, le dernier, le quatrième que j'ai lu, il s'appelle Accident nocturne. Et il est de 2003. Alors, le jeune homme, l'écrivain, il traversait la place des Pyramides vers la Concorde quand une voiture l'a renversé. Une femme blessée au visage est sortie de cette voiture qui avait heurté une des arcades de la place. Il s'est retrouvé à la clinique Mirabeau, rue Narcisse Diaz, où il fait les réflexions suivantes. Alors là, je vais juste vous lire un petit passage de son séjour à la clinique. J'entendais leur conversation derrière la porte et la présence de ces deux personnes invisibles et inconnues me rassurait. Peut-être restait-elle là pour veiller sur moi. De nouveau, la voiture surgissait de l'ombre, me frôlait et s'écrasait contre les arcades. La portière s'ouvrait et elle sortait en titubant. Quand nous étions sur le canapé du hall de l'hôtel, et jusqu'au moment où elle m'avait serré le poignet dans le panier à salade, j'avais pensé qu'elle était ivre. Un accident banal, de ceux dont on dit au commissariat de police que la personne conduisait en état d'ébriété. Mais maintenant, j'étais sûre qu'il s'agissait de toute autre chose. C'était comme quelqu'un qui aurait veillé sur moi sans que je le sache ou que le hasard aurait mis sur ma route pour me protéger. Et cette nuit-là, le temps pressait. Il fallait me sauver d'un danger ou me donner un avertissement. Une image m'est revenue en mémoire, sans doute à cause de ce mot, engadine. J'avais vu quelques années auparavant un type dévaler à ski une pente très raide, se jeter délibérément contre le mur d'un chalet et se casser la jambe pour ne pas partir à la guerre, celle que l'on appelait d'Algérie. En somme, il voulait sauver sa vie ce jour-là. Moi, apparemment, je n'avais même pas une jambe cassée. Grâce à elle, je m'en étais sortie à bon compte. Ce choc était nécessaire. Il me permettait de réfléchir à ce qu'avait été ma vie jusque-là. J'étais bien obligée d'admettre que je courais à la catastrophe, selon l'expression que j'avais entendue à mon sujet. Encore une fois, mon regard s'est posé sur la chaussure au bas de la chaise, ce gros mocassin que j'avais fendu en son milieu. Ils avaient dû être surpris quand ils me l'avaient enlevé, avant de me mettre dans ce lit. Ils avaient eu la gentillesse de le ranger avec mes vêtements et de me prêter ce pyjama que je portais maintenant, bleu à rayures blanches. D'où venait tant de sollicitude? C'était elle, sans doute, il parle de la conductrice, qui leur avait donné des instructions. Je ne pouvais détacher les yeux de cette chaussure. Plus tard, quand ma vie aurait pris un cours nouveau, il faudrait toujours qu'elle restât à la portée de mon regard, bien en évidence sur une cheminée ou dans une boîte vitrée, en souvenir du passé. Et à ceux qui voudraient en savoir plus sur cet objet, je répondrai que c'était la seule chose que mes parents m'avaient léguée. Oui, aussi loin que je remontais dans mes souvenirs. J'avais toujours marché avec une seule chaussure. À cette pensée, j'ai fermé les yeux et le sommeil est venu dans un fou rire silencieux. Et voilà. Après sa sortie de la clinique, il est allé à la recherche de la conductrice qui s'appelait Jacqueline Beausergent et qui avait une Fiat à la couleur vert d'eau. Et je ne vous dirai pas la suite.
Donc, c'était accident nocturne.
Donc, c'était accident nocturne publié chez Gallimard en 2003.
Je vais vous présenter le livre qui a obtenu le prix Goncourt 1978. Il s'agit de « Rue des boutiques obscures ». Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui a tout oublié de lui-même. « Je ne suis rien » est la première phrase du roman. Précisément, cet homme n'a plus aucun souvenir de son passé ni de sa propre mémoire. Le lecteur suit alors avec lui son enquête, ou plutôt sa quête de lui-même au travers de personnages dont il espère à chaque fois qu'ils se souviendront de lui, qu'ils se substitueront à sa mémoire défaillante. Le narrateur s'accroche à une photo dans laquelle il croit se reconnaître. Guy, c'est son nouveau nom, part à la recherche de ceux qui savent ce qu'il fut. Des apatrides russes exilés, le jardinier d'aristocrates désargentés, un jockey qui eut son heure de gloire, une femme qui lui prêta un appartement et quelques autres qui surgissent juste pour livrer au lecteur un souvenir précis. Il se cherche aussi à travers des lieux. Modiano aime les adresses, les numéros de téléphone désuets. Il observe des fenêtres en essayant de se souvenir lui-même. Une sensation l'assaille, une odeur, un tissu, un sentiment. Je vais vous lire un tout petit extrait qui définit bien ce que je viens de dire, je crois. Il faisait nuit, l'heure où Denise revenait de l'école, si toutefois elle restait à l'étude du soir. Quel chemin suivait-elle? Venait-elle de la droite ou de la gauche? J'avais oublié de le demander au patron du café. En ce temps-là, il y avait moins de circulation et les feuillages des platanes formaient une voûte au-dessus du quai d'Austerlitz. La gare elle-même, plus loin, ressemblait certainement à celle d'une ville du sud-ouest. Plus loin encore, le jardin des plantes et l'ombre et le silence lourd de la halle au vin ajoutaient au calme du quartier. J'ai passé la porte de l'immeuble et j'ai allumé la minuterie. Un couloir dont le vieux dallage était à losange noir et gris, un paillasson en fer, au mur jaune, des boîtes aux lettres et toujours cette odeur de Saint-Doux. Si je fermais les yeux, pensais-je, si je me concentrais en appuyant les doigts de mes mains contre mon front, peut-être parviendrais-je à entendre, de très loin, le claquement de ses sandales dans l'escalier. Donc on imagine que les que les retours vers le passé se situent pendant l'occupation et que la clandestinité des personnages est due à cette période particulière. Mais rien n'est dit, tout est suggéré, parce que rien n'est certain. Dans sa quête de lui-même, Guy Roland montre la fragilité de la vie, la faillibilité de la mémoire. Ce qui reste de chacun de nous n'existe que dans le souvenir des autres et de quelques papiers administratifs. Je vais vous lire un autre petit passage. J'avais marché jusqu'à la fenêtre et je regardais en contrebas les rails du funiculaire de Montmartre, les jardins du Sacré-Cœur et plus loin tout Paris avec ses lumières, ses toits, ses ombres. Dans ce dédale de rues et de boulevards, nous nous étions rencontrés un jour, Denise Coudreuse et moi. Itinéraires qui se croisent, parmi ceux que suivent des milliers et des milliers de gens à travers Paris, comme mille et mille petites boules d'un gigantesque billard électrique qui se cognent parfois l'une à l'autre. Et de cela, il ne restait rien, pas même la traînée lumineuse que fait le passage d'une luciole. Donc voilà, c'est un style assez épuré, mais extrêmement poétique. Et j'avoue que je suis une inconditionnelle de Patrick Modiano. Donc je vous rappelle le titre de ce livre, Rue des boutiques obscures, paru chez Gallimard en 1978.
Je vais vous présenter, de Patrick Modiano toujours, un pédigré qui est son livre le plus autobiographique qu'il ait pu faire. D'ailleurs, il avait pris des notes pour essayer de se rappeler son enfance, car son enfance, comme nous allons vous le montrer, est extrêmement décousue. Ses parents ne s'en sont quasiment jamais occupés, ni son père, ni sa mère. Et d'ailleurs, il va décrire sa mère ainsi et faire le lien avec un animal qu'elle possédait. C'était une jolie fille au cœur sec. Son fiancé lui avait offert un chouchou, mais elle ne s'occupait pas de lui, et le confiait à différentes personnes, comme elle le fera plus tard avec moi. Le chouchou s'était suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos, et je dois avouer qu'il me touche infiniment, et que je me sens très proche de lui. Et en effet, Patrick va avoir un petit frère, mais qu'il va perdre très rapidement. Ça va être une grande rupture pour lui. Et ses parents n'auront de cesse, en fait, de le mettre dans différents internats. Pour lui, ses parents se débarrassent de lui. Et lui, évidemment, il n'aura de cesse d'essayer de s'opposer à ses décisions, mais rien n'y fera. Donc, il va, hélas, rentrer à nouveau dans un internat. Je vous lis un petit extrait d'une lettre de son père. Les derniers après-midi de vacances, je lis sur la petite plage de Verrier du Lac le diable au corps. Quelques jours avant la rentrée, mon père m'envoie une lettre sévère qui risque d'entamer le moral d'un garçon bientôt prisonnier au pensionnat. Veut-il se donner bonne conscience en se persuadant qu'il a raison d'abandonner à son sort un délinquant ? Albert Rodolphe Modiano, 15 quai de Conti, Paris 6e, le 8 septembre 1960. Je te renvoie la lettre que tu m'as envoyée de Saint-Lô. Je dois te dire que je n'ai pas cru une seconde à la réception de cette lettre que ton désir de rentrer à Paris était motivé par le fait de préparer un examen éventuel à ton futur collège. C'est pour cette raison que j'ai décidé que tu partirais dès le lendemain matin au train de 9h à Annecy. J'attends ton comportement à cette nouvelle école et je ne peux que souhaiter pour toi que ta conduite soit exemplaire. J'avais l'intention de venir à Genève pour te voir. Ce voyage me semble pour le moment inutile. Albert Modiano.
C'est sec.
Et en effet, Patrick Modiano va être à cet internat. Et à cet internat, sa mère, donc faute de présence, va elle aussi lui écrire, mais des choses assez particulières. au cours de l'année, donc il reçoit de rares lettres de sa mère venant d'Andalousie. Les lettres reçues et envoyées dans cet internat doivent être décachetées. Et d'ailleurs, le chanoine qui s'occupe de cette école, le chanoine Janin, juge que c'est bizarre cette mère sans mari en Andalousie. Et un jour, elle lui écrit de Séville. « Tu devrais commencer à lire Monterland. Je crois que tu pourrais beaucoup apprendre de lui. Mon vieux garçon, écoute-moi sérieusement. Fais-le, je t'en prie, lis Monterland. Tu trouveras de bons conseils chez lui, comment un jeune homme doit se comporter vis-à-vis des femmes, par exemple. Vraiment, en lisant Les jeunes filles de Monterland, tu apprendras beaucoup de choses. » J'avais été très surpris de sa véhémence. Ma mère n'avait pas lu une ligne de Monterland. C'était un ami à elle, journaliste Janco, qui lui avait soufflé de me donner ce conseil. Aujourd'hui, je suis bien perplexe. Souhaitait-il vraiment que Monterland devint mon guide dans le domaine sexuel? Voilà, donc cette mère qui l'abandonne va lui écrire des lettres un petit peu comme ça, parce que vraiment, sa jeunesse va être extrêmement chaotique. Parfois, il va être confié à des personnes louches, et du coup, ça va apparaître dans certains romans. Et toute sa vie, en plus, il va se battre avec ses parents pour ne pas rentrer à l'internat, ce qui pourra avoir des conséquences financières pour lui. Donc ses parents habitent quai de Conti, ils sont séparés, ils sont dans un appartement l'un au-dessus de l'autre. Et un jour, ils n'ont plus d'argent, parce que comme il ne refuse d'aller à l'internat, son père ne lui délivre plus aucun subside. Du coup, sa mère va lui demander d'aller voir son père, de lui quémander de l'argent, mais ça va très mal se finir, puisque la nouvelle femme de son père va appeler la police et ils vont être emmenés dans un panier à salade tous les deux. L'autre particularité, c'est qu'en même temps, ses parents sont d'un milieu un peu interlope, et lorsqu'il a besoin d'argent, sa mère a des amis quand même relativement connus. Donc, un après-midi, nous n'avons plus un sou, ma mère et moi. Nous nous promenons dans les jardins des Tuileries. En dernier recours, elle décide de demander une aide à son amie Suzanne Flon. Nous allons à pied chez Suzanne Flon, sans même la menue monnaie, pour 2 tickets de métro. Elle nous reçoit dans son appartement de l'avenue Georges V, aux terrasses superposées, en soirée à bord d'un navire. Nous restons dîner chez elle, ma mère sur un ton de mélodrame lui expose nos malheurs. Bien campée sur ses jambes, le geste théâtral est péremptoire. Suzanne Flon écoute avec bienveillance, navrée de cette situation, elle se propose d'écrire une lettre à mon père, elle donne de l'argent à ma mère. Les mois suivants, mon père doit se résoudre à ce que je quitte pour toujours les dortoirs que je fréquentais depuis l'âge de 11 ans. Il me fixe des rendez-vous dans des cafés. Donc c'est sans doute son œuvre, enfin on se disait que... est née quand même de cette espèce d'enfance complètement décousue, sans amour des parents. Alors, il faut dire qu'on s'est aperçu que le père lui-même avait connu cette enfance d'internat. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas offrir autre chose à son fils que ce que lui-même on lui avait donné. Alors, c'est peut-être un peu de la psychologie à la petite, à la petite semaine. Mais lui-même n'avait fait que fréquenter les internats. Et ça va quand même mal se finir entre tous les deux.
Oui, parce qu'ils ne voudront. Patrick Modiano ne voudra plus voir son père. Voilà. Donc, c'était Un pédigré de Patrick Modiano. Pour en finir avec Patrick Modiano, je vais vous présenter avec Nathanaël son dernier roman qui est paru en 2014, qui s'appelle « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». À cause d'un nom dans un carnet d'adresses égaré puis retrouvé, le narrateur fouille dans sa mémoire à la recherche d'événements personnels vieux de 50 ans. Comme d'habitude, Modiano brouille les pistes et nous entraîne dans sa mystérieuse quête. Avec lui, on déambule dans Paris, on guette un souvenir, on essaye de reconstituer le puzzle d'une vie. Les amateurs de l'écrivain ne seront pas déçus, car l'atmosphère du livre est profondément modianesque, et pour tous ceux qui vont le découvrir, ce roman sera une bonne introduction à son œuvre. Donc on va vous lire un petit passage, un petit dialogue avec Nathanaël.
Je me suis permis de feuilleter votre carnet d'adresses, une simple curiosité. Vous ne m'en voulez pas ?
Dragan le regarda droit dans les yeux. L'autre soutenait son regard. « Pourquoi vous en voudrais-je ?» Un silence. L'autre avait fini par baisser les yeux. Puis, avec la même voix métallique,
« Il y a quelqu'un dont j'ai trouvé le nom dans votre carnet d'adresses. J'aimerais que vous me donniez des renseignements sur lui. » Le ton était devenu plus humble. « Excusez mon indiscrétion. »«
De quoi s'agit-il ? De qui s'agit-il ? » demanda Dragan à contre-cœur. Il éprouvait brusquement le besoin de se lever et de marcher à pas rapides vers la porte ouverte sur le boulevard Haussmann et de respirer à l'air libre.
« D'un certain Guy Torstel. »
Il avait prononcé le prénom et le nom en articulant bien les syllabes, comme pour éveiller la mémoire assoupie de son interlocuteur. « Vous dites ?»«
Guy Torstel. »
Dragan sortit de sa poche le carnet d'adresse et l'ouvrit à la lettre T. Il lut le nom, tout en haut de la page, mais ce Guy Torstel n'évoquait rien pour lui. « Je ne vois pas qui ça peut être. »«
Vraiment ?»
L'autre paraissait déçu. « Il y a un numéro de téléphone à 7 chiffres, » dit Dragan. « Ça doit dater d'au moins une 30aine d'années. » Il tourna les pages. Tous les autres numéros de téléphone étaient bien ceux d'aujourd'hui, à 10 chiffres. Et ce carnet d'adresse, il ne s'en servait que depuis 5 ans.
« Ce nom ne vous dit rien ?»«
Non. » Quelques années auparavant, il aurait fait preuve de cette amabilité que tout le monde lui reconnaissait. Il aurait dit « Laissez-moi un peu de temps pour éclaircir le mystère. » Mais les mots ne venaient pas.
« C'est à cause d'un fait divers sur lequel j'ai réuni pas mal de documentation. Ce nom est cité, voilà. »
Il paraissait brusquement sur la défensive. « Quel genre de fait divers ?»
Dragan avait posé la question machinalement, comme s'il retrouvait ses vieux réflexes de courtoisie. Un très ancien fait divers. « Je voudrais écrire un article là-dessus. Au début, je faisais du journalisme, vous savez. »
Mais l'attention de Dragan se relâchait. Il devait vraiment leur fausser compagnie au plus vite, sinon cet homme allait lui raconter sa vie. « Je suis désolée, j'ai oublié ce Torstel. À mon âge, on a des pertes de mémoire. Je dois malheureusement vous quitter. » Donc voilà, c'était un petit extrait de « Pour que tu ne perdes pas dans le quartier ». C'était au début du roman, hein, puisque grâce à ce Torstel, le narrateur va essayer de retrouver la mémoire et il va déambuler dans Paris à la recherche d'une ancienne femme qu'il avait abandonnée. Il y avait toute une histoire, je vous raconte pas parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça vaut le coup d'être lu. Donc c'est « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » de Patrick Modiano, paru chez Gallimard en 2014.
J'ai un petit peu envie de casser votre ambiance parce que j'ai lu Modiano il y a quelques années et je l'ai relu récemment, notamment pour le dernier roman dont Sylvie vient de vous parler. Et quand je lis Patrick Modiano, j'ai toujours l'impression qu'il écrit la même chose. Je retrouve ce que Nelly disait aussi, c'est quand on commence un roman de Modiano, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, on n'arrive pas à le lâcher. Je trouve ça très très bien écrit, mais pour moi ça manque de, non pas de vie, mais d'évolution, comme s'il n'y avait pas d'histoire à raconter, comme si c'était juste la recherche permanente de la même histoire. C'est un peu mon regret, sans plus, hein, mais c'est pas un auteur qui m'emballe à cause de ça.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait c'est sa patte justement, cette espèce de recherche, cette espèce d'errance qu'il a connue jeune et qui en fait il retranscrit d'une manière différente, inlassablement, une quête de personne, une quête d'identité, une quête de lieu, tel qu'il avait essayé d'en pédigrer en fait pour refaire son histoire, de récupérer le plus de choses car en fait il n'avait pas compris grand chose à cette enfance complètement ballottée. Mais bon, il doit y avoir encore bien d'autres choses à dire sur lui, mais c'est vrai que c'est une œuvre singulière.
Voilà, on va arrêter là avec Patrick Modiano et on parlera après la musique de 2 autres livres. Yanis, notre jeune stagiaire qui fait son stage de seconde à la médiathèque, va vous parler de Stephen King, La ligne verte.
Alors, je vais vous présenter le roman La ligne verte de Stephen King. Il a été écrit en 1996. Donc alors, tout d'abord, Stephen King, c'est un écrivain anglais. Il est né en 1947, un écrivain américain. Il écrit des romans fantastiques et de science-fiction. C'est un des écrivains américains les plus lus au monde. Donc la particularité de ce roman La ligne verte, c'est tout d'abord c'est un roman feuilleton, c'est-à-dire qu'il est sorti en plusieurs épisodes, 5 ici. Stephen King voulait faire un peu comme Charles Dickens qui sortait ses romans en plusieurs épisodes. Donc alors La ligne verte est un roman sur la peine de mort. Un résumé rapide, c'est un homme noir accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et condamné à mort. On découvre dans la suite qu'il aura des pouvoirs psychiques, donc ici on retrouve la touche Stephen King, donc le fantastique et tout. Dans ce livre, on découvre la vie des condamnés à mort et leurs derniers instants, ainsi la ligne verte et la ligne qui relie les cellules des condamnés à la chaise électrique. Donc c'est un roman assez sombre en général. Pour vous montrer, je vais vous lire l'incipit du roman. Ça s'est passé en 1932, quand le pénitencier de l'État se trouvait encore à Cold Mountain. Naturellement, la chaise électrique était là. Ils en blaguaient de la chaise et les détenus. Mais comme on blague des choses qui font peur et auxquelles on ne peut échapper. Il a surnommé Miss 100 000 volts, la veuve courant, la rôtisseuse. Et il rigolait de la note d'électricité et du directeur Moores qui devrait passer sa dinde de Noël à la rôtisseuse, vu que Melinda, sa chère moitié, était bien trop malade pour cuisiner. Mais pour ceux qui devaient vraiment s'asseoir sur cette chaise, l'humour n'était pas au rendez-vous. J'ai présidé à 78 exécutions pendant tout le temps que j'ai servi à Cold Mountain, et je peux affirmer que la plupart de ces hommes prenaient conscience jusqu'à la moelle de ce qui les attendait, sitôt qu'on leur sanglait les chevilles aux pieds en chaîne massive de Miss 100 000 volts. Ils réalisaient que leurs jambes avaient achevé leur carrière. Le sang circulait toujours en eux, les muscles étaient encore solides, mais ils étaient quand même fichus. Ils n'iraient plus se balader dans les bois, ni danser avec une fille à un bal champêtre. C'était d'abord par les chevilles que les clients de la Miss prenaient conscience de leur mort. Ils disaient leurs dernières paroles, des phrases souvent bizarres, puis on leur passait une cagoule en soie noire sur la tête. Cette cagoule, c'était soi-disant pour leur confort, mais j'ai toujours pensé que c'était pour le nôtre, pour nous épargner leur dernier regard. Cette insoutenable expression de désespoir à l'idée qu'ils allaient mourir, attachés à cette chaise. Donc c'est un roman qui est un peu différent du style d'habitude de Stephen King, puisque ici on a un sujet assez grave, la peine de mort qui est toujours en état dans quelques états américains. Le narrateur est un gardien du bloc des condamnés à mort, donc on découvre vraiment une vision intérieure des prisonniers. De ce roman m'a beaucoup plu car le sujet de la peine de mort m'intéresse et aussi Stephen King est mon écrivain préféré.
Eh ben, c'est mon tour, mais effectivement, je change de sujet. Je suis en train de me balader avec Jean-Paul Dubois. Le roman dont je vais vous parler s'appelle « Kennedy et moi ». Son personnage principal, Paul Somaris, vit en couple. Ils ont une fille et deux jumeaux, jeunes adultes, qui sont encore à la maison. Paul est désabusé, ou mélancolique, ou dépressif. Il a écrit pendant une quinzaine d'années des romans pour faire vivre sa famille. Puis il a tout arrêté, obligeant ainsi Anna, sa femme, à reprendre un travail. Ce n'est pas dramatique, mais Anna y trouve un amant. Quant aux enfants, il regrette presque de les avoir faits, ne se sent aucun atome crochu avec eux. Mais pour autant, il ne les chasse pas de la maison. Jean-Paul Dubois, l'auteur, nous laisse aux abois, certain que quelque chose va exploser à tout moment. et cette autre chose qui se produit et nous attire, haletant, vers une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Sur la quatrième de couverture, un petit accroche en fait sur un des moments du roman. Samuel Polaris va mal, très mal. Il achète un revolver, menace l'amant de sa femme et mord sauvagement son dentiste. Mais comment être certain que ce ne sont pas les autres, les gens normaux, qui ont basculé dans une sorte de folie collective ? Samuel doit reconquérir sa dignité. Même si pour cela, il doit voler à son psychiatre la montre que portait Kennedy le jour où il a été assassiné. Ce roman, Kennedy et moi, a été publié en 1996. Il a été porté à l'écran. C'est lui-même qui en a écrit le scénario en 1999. Les acteurs principaux en sont Jean-Pierre Bacri et Nicole Garcia. Ceux qui ont lu d'autres livres de Jean-Paul Dubois y retrouveront quelques-uns de ces personnages fétiches. Le héros Marie s'appelle Paul, presque toujours. Son épouse Anna, presque toujours également. On y trouve habituellement des dentistes. Et souvent des références plus ou moins explicites au rugby, puisqu'il en est aficionado. À des voitures qui sont toujours des refuges ou des amis. À des accidents récurrents et à l'amour fatigué, très fatigué. Jean-Paul Dubois est né en 50, il est écrivain discret, il a fait des études de sociologie. Il faut relativement chercher pour trouver ce qu'il est, parce qu'il n'est pas très bavard. Journaliste des sports à Sud-Ouest puis au Matin de Paris, grand reporter au Nouvel Obs. Il a publié une quinzaine de romans, des essais, des nouvelles et des articles, plus diverses autres participations. Il ne pense pas avoir une vocation d'écrivain. Il a seulement trouvé que c'est pour gagner sa vie et que c'était un moyen pas trop douloureux. Ses personnages sont le plus souvent dans des situations farfelues. Il laissa ses zones avec une bonne dose d'humour plutôt caustique. En 2004, son roman le plus connu, je pense, Une vie française, a obtenu le prix Femina et le prix du roman Fnac. C'est sans doute ce roman-là qui est le plus connu, mais lui-même ne sait pas très bien pourquoi. Il attribue seulement cela à un coup de chance. C'est vrai que plusieurs autres de ses romans valent vraiment le plaisir de s'y attarder. Voilà pour Jean-Paul Dubois, Kennedy et moi. Un petit régal.
Donc, nous avons lu l'introduction du discours du prix Nobel Patrick Modiano, son discours de 2014. Puis nous vous avons présenté Place de l'Étoile, toujours de Patrick Modiano. Nelly a présenté l'accident nocturne. Sylvie, les boutiques
rue des boutiques obscures.
Je vous ai présenté Pédigré.
Après, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier.
Yanis, lui, nous a présenté de Stephen King La Ligne Verte et Chantal nous a présenté de Jean-Paul Dubois Kennedy et moi.
Avant de nous séparer, nous allons vous proposer les différents rendez-vous du mois de mars.
Alors, le mercredi 11 mars à 18h, il y aura une battle poétique place d'Herbès à Manosque.
Devant la médiathèque.
Vous aurez 3 minutes pour défendre votre poème préféré, le vôtre ou celui d'un poète que vous appréciez, seul ou en groupe. Tout est possible, lecture d'extraits, mise en scène, slam, prose, voilà, tout le monde, c'est tout public, hein, tout le monde est le bienvenu sur cette scène.
C'est organisé par les correspondances et par Éclat de Lire. Le mardi 17 mars à 18h aura lieu notre traditionnel comité de lecture. Donc là, il y aura un thème puisqu'on s'inscrit dans le printemps des poètes. Et le thème de cette année, c'est l'insurrection. Alors pour nous, ce n'est pas que l'insurrection poétique, c'est l'insurrection dans tous ses états. Donc c'est le mardi 17 mars à 18h. Si vous voulez des idées de lecture sur ce thème, vous pouvez vous adresser à la médiathèque.
Le samedi 21 mars à 10h30, nous vous invitons pour une déambulation poétique par les membres du comité de lecture, donc des correspondances et de la médiathèque, et les élèves de la classe de clarinette du Conservatoire de musique, dirigée par Valérie Farou, dans les rues et librairies de Manosque. Donc les librairies, ce sera le Petit Pois et le Poivre d'Âne. Le départ aura lieu à la médiathèque et on retournera à la médiathèque pour la dernière partie de cette déambulation qui va se faire donc en musique, et à la médiathèque il y aura en plus un piano.
Donc c'est le samedi 21 mars à 10h30. Voilà, on vous souhaite une bonne après-midi et merci à Emeline, notre technicienne.
Qui a toujours beaucoup de patience pour toutes nos frasques avec les micros et avec l'organisation.
Merci beaucoup à toutes et à Yanis aussi. À bientôt.